La parole des contes avec Anne Wong.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, bienvenue dans notre émission La parole des contes. Aujourd'hui, Léa est à mes côtés pour donc nous promener, nous balader au milieu des oiseaux et interroger la symbolique des oiseaux à travers différents contes. Nous irons dans le Moyen-Âge avec des sujets qu'a traité Léa dans sa thèse, qu'elle nous expliquera et nous développera. Et nous passerons chez les Grecs et vous verrez le voyage que nous allons faire ensemble. Donc Léa, la parole est à toi.
Merci Anne, très heureuse d'être ici pour cette émission sur les oiseaux, puisque dans mon métier de sémiologue, qui consiste à étudier les signes et les symboles, c'est vraiment quelque chose qui, à part l'oiseau, c'est jamais vraiment un simple animal. Hein. Toujours porteur de quelque chose, d'un secret, d'un message, d'un destin. C'est vraiment un animal du seuil aussi, il est à la fois dans le ciel, à la fois nous accompagner parfois aussi sur la terre. Et il va vraiment relier les mondes, et ça on va le voir ensemble dans notre voyage, toutes les deux. On va aller dans des histoires où les différents univers s'entrelacent. Le mystère, le merveilleux, le monde des humains.
La métamorphose.
La métamorphose, tout à fait. On est vraiment dans des seuils. Alors qu'il soit oiseau de feu, oiseau de vérité, oiseau pleureur, qu'il soit corbeau, cygne, rossignol, on va voir qu'il incarne toujours un symbole fort. Que ça soit par exemple un symbole de la quête spirituelle, on en parlera notamment avec le fameux simourgue perse, de l'épreuve morale, de l'âme en souffrance, ou comme on l'a dit, de la métamorphose et de l'amour. Donc j'ai très hâte de m'embarquer avec toi dans ce beau voyage et d'explorer cet animal fantastique. Et oui, on peut commencer notre beau voyage avec quelque chose d'assez universel. Je ne sais pas toi, Anne, d'ailleurs, ce que tu en penses, mais moi, ça me fait toujours assez penser à l'amour, à la sphère amoureuse de ces oiseaux. Je trouve qu'on les voit beaucoup dans un univers souvent féminin. Et ça m'a été confirmé par une universitaire qui a dédié ses recherches aux pratiques cultuelles en Grèce et qui m'a expliqué que justement, les oiseaux, on les voyait beaucoup figurer sur les stèles funéraires, notamment d'enfants et de femmes, hein, et qu'ils s'invitaient aussi beaucoup sur la cérémonie nuptiale, parce qu'ils sont en fait associés aux déesses qui veillent sur les femmes. Ça, on peut le voir avec Aphrodite notamment, avec ses colombes, ses cygnes, et même ses moineaux qui symbolisent l'amour, la fidélité et la fécondité. Et on n'oubliera pas aussi Héra, la déesse du mariage, qui est souvent, si tu fais attention au tableau dans lesquels elle est représentée, tu vas souvent voir un paon, qui est un symbole de prospérité conjugale et de vigilance également. Et que globalement, les Grecs, ils étaient très sensibles au fait que les oiseaux les reliaient aux dieux, hein, que ce soit des compagnons, comme je viens de le dire, de divinité, ou alors porteurs de messages célestes. Tu sais, on pouvait regarder le ciel et décrypter un petit peu des messages en observant les cieux et les vols des oiseaux. Donc voilà pour la petite parenthèse antique. Mais comme tu le disais tout à l'heure, moi j'ai dédié mon mémoire à un recueil de contes médiéval, et dans ce recueil, il y avait deux contes dont je vais parler rapidement maintenant. Il y avait un conte qui s'appelle Laustique. Donc je le rappelle, ça a été écrit par Marie de France, hein, au XIIe siècle. Et dans ce conte-là, c'était une femme mariée qui échangeait des mots d'amour en fait par la fenêtre avec son voisin chevalier. Elle était donc mariée, et pour échapper finalement à la vigilance de son mari, elle se levait pour échanger ses mots d'amour. Elle lui disait qu'en fait, elle contemplait un rossignol la nuit et que c'est pour ça qu'elle s'extrayait un petit peu du lit conjugal. Et son mari lui pose beaucoup de questions et commence un peu à être jaloux et à être suspicieux, en effet, à lui demander pourquoi elle veille. Et finalement, il la suit un jour et il va tuer le rossignol. et le jeter le corps de l'oiseau, et jeter également le cadavre de l'homme qu'il va trouver grâce à justement en ayant suivi cette femme. Et ce qui est très beau, enfin ce qui est en tout cas du domaine du merveilleux dans cette histoire, c'est qu'il va conserver le corps du rossignol dans un coffret précieux, comme une relique en fait, une relique de leur amour du coup perdu, et il va garder le corps de cet oiseau. Donc moi ça m'avait beaucoup marqué ce conte, parce que j'avais jamais rien vu de tel, en tout cas dans mon imaginaire c'était jamais apparu. Et donc après voilà, maintenant je comprenais mieux pourquoi on associait le rossignol et son chant à l'amour aussi, qui était comme un symbole de communication amoureuse. Donc ça, c'était le premier conte avec un oiseau que j'avais envie d'évoquer avec vous et avec toi, Anne. Et il y avait aussi un autre conte qui s'appelle Yonek. Alors là, c'est la même chose, mais pas vraiment avec la même typologie d'oiseau, puisqu'on n'est pas face à un petit rossignol mignon. On est plutôt face, alors ça dépend des versions, mais entre un épervier et un faucon, mais voilà, quelque chose de l'ordre des rapaces, en tout cas. Et ici, c'est une dame qui est enfermée par son mari, qui est aussi un homme jaloux. Un jour, elle va exprimer son désir de connaître l'amour, et un faucon ou un épervier, va entrer par la fenêtre et va se transformer en bel homme. Ils vont vivre un amour secret. Elle va tomber enceinte, mais le mari, du coup, va découvrir la trahison et va tendre un piège, forcément. Et l'autre homme va se retrouver mortellement blessé avec, évidemment, le piège du mari. Mais il annonce que le fils qu'ils ont enfanté vengera leur père. Donc, le fils va grandir, il va découvrir son origine et il va accomplir sa destinée en tuant le mari. Voilà pour ce conte médiéval où nous sommes face à un amant surnaturel, et je trouvais que ça valait la peine d'en parler. Maintenant, Anne, on a un petit peu rangé nos différentes découvertes et nos différents contes dans deux grandes catégories, puisqu'en fait, on a été un petit peu marqué par le fait que souvent les oiseaux étaient liés à des dynamiques de métamorphose, voire de résurrection. Ça, on le voyait déjà aussi en Antiquité grecque, avec ce conte, en tout cas cette légende de Philomèle et Procnée, où l'on parle aussi d'un rossignol. C'est un conte finalement assez violent, où il s'agit de deux sœurs qui sont transformées, l'une en rossignol et l'autre en tourterelle. D'ailleurs, ça, c'est resté dans le nom vernaculaire des oiseaux. Vous avez le rossignol Philomèle et le rossignol Procnée, en référence à ces deux femmes voilà, qui se sont transformées pour échapper à un mari, à un homme vengeur. Donc voilà pour la petite transition. Maintenant, Anne, je te laisse nous parler des contes qu'on a choisis et qui font état de cette dynamique de métamorphose, voire de résurrection.
Oui, sachant quand même que Philomène et Procnée, c'est monstrueux, puisque c'est un mari qui va chercher la petite sœur de sa femme, qui est dans une autre île, puisque bon, ce sont des Grecs, et qui va donc abuser d'elle et lui couper la langue pour qu'elle ne parle pas. Que l'histoire ne s'arrête pas là, que bon, on peut toujours faire pire, que donc la petite sœur qui ne parle pas, puisqu'elle a la langue coupée, va tisser, et donc son tissage, elle va faire comme elle peut pour essayer d'expliquer à sa grande sœur ce qui lui est arrivé sur le bateau. Et donc la grande sœur va accoucher, va tuer le bébé et le donner à manger à son mari. Et c'est à partir de là, il a découvert que c'était qu'il avait mangé, et il va se mettre à les poursuivre. Et pour lui échapper, elles vont se transformer toutes deux en oiseaux. Pour ce qui est du conte de Genévrier, effectivement, c'est un oiseau, mais un oiseau de la résurrection. La méchanceté d'une femme que nous pourrons voir à une autre occasion fait qu'elle va tuer le fils d'une autre, le fils de son mari, qui était d'un premier lit, et elle va faire porter la culpabilité à sa propre fille. Elle va couper aussi le jeune garçon en petits morceaux et le donner à manger à son mari. Donc, vous voyez, de génération en génération, entre l'Antiquité grecque et le Moyen-Âge, les histoires se ressemblent un peu et se répètent. Mais lui, il va réussir à revivre en se transformant d'abord en oiseau et puis en redevenant le petit garçon comme si rien ne s'était passé. Les six cygnes vont, eux, être... donc ce sont des jeunes gens qui vont être transformés en cygnes. Et grâce à leur sœur, qui pendant 7 ans va ne pas parler et tisser des petites chemises pour eux, va pouvoir leur donner la possibilité de redevenir des hommes. C'est très difficile pour elle, puisqu'il ne faut pas qu'elle parle. Elle va être accusée à tort et elle ne va rien dire. Et le jour dernier où elle va pouvoir jeter les 6 chemises sur ses 6 frères, signe, et vont redevenir des hommes, et elle va pouvoir enfin parler pour dire toute l'ignominie qu'elle a pu subir. Quant aux 7 corbeaux, c'est une malédiction qui vont transformer ces 7 jeunes gens. 7 garçons, le père avait tellement envie d'une fille. Et enfin, le 8e enfant est une fille. Mais hélas, elle est en mauvaise santé. Et de sorte qu'il va falloir vite trouver de l'eau bénite pour lui faire échapper à l'enfer, mais il demande donc, le père demande à ses fils d'aller chercher de l'eau pour baptiser la petite dernière qui est très très fragile, et les enfants qui sont très désireux de faire ça pour leur sœur vont se bousculer et vont casser le récipient, et l'eau n'arrivera pas jusqu'au père qui maudit ses écervelés, ses incapables, et qu'il soit transformé en corbeau. Il n'a à peine fini sa phrase qu'il entend au-dessus de sa tête les battements des ailes des 7 corbeaux. Et tu devais pas nous raconter une histoire, Léa, par terre des corbeaux?
Si. En fait, je devais vous raconter plein d'histoires. Déjà là, tu parlais des 6 cygnes, et je voulais t'expliquer que moi, dans mes recherches aussi, j'avais, alors c'était pas des hommes, c'était des femmes cygnes. C'était, tu sais, elles sont parfois appelées des banshees, je sais pas si ça te parle. C'est des créatures plutôt de l'ère germano-scandinave. C'était les femmes du Cid, en fait. Le Cid, c'était l'autre monde celte, le monde un peu merveilleux, tu sais. Parfois on dit que c'est aussi le monde d'Avalon avec le roi Arthur, etc. Enfin, c'est souvent un monde sur une île. Et du coup, pour y accéder, on a besoin d'être un oiseau. C'est plus facile. En tout cas, c'est plus rapide. Et du coup, ces femmes, ce sont souvent des messagères des dieux, et elles se transforment en cygnes, justement. Et elles vont attirer, en général, des guerriers dans les grandes sagas irlandaises ou celtes. Du coup, voilà, ça m'a fait penser à ça, parce que j'avais mon seul rapport à la métamorphose en cygne, avant que tu me parles de ces 6 cygnes, et bien c'était ça. Mais oui, je voulais te parler des corbeaux, et notamment de la légende grecque du corbeau, parce qu'on parle justement de 2 oiseaux un peu contrastés. On a le cygne avec un plumage très blanc, et le corbeau avec un plumage très noir. Mais justement, dans la mythologie grecque, à l'origine, le corbeau, c'était un oiseau tout blanc, qui avait un plumage aussi éclatant que le cygne, et il était l'oiseau, le favori du dieu Apollon, qui l'utilisait beaucoup comme messager. Sauf que, un jour, Apollon envoie son corbeau surveiller Coronis, hein, et là on fait le lien avec aussi l'étymologie, qui était une femme qu'il aimait et qu'il avait d'ailleurs mise enceinte. Mais le corbeau rapporte à Apollon le fait que Coronis trompe Apollon avec un autre homme qui s'appelle Ichis. Et donc, c'est bien le corbeau qui vient rapporter à Apollon cette infidélité-là. Qu'est-ce qu'il va faire Apollon derrière? Il est furieux, évidemment. Il va donc punir Coronis assez, assez logiquement dans le fil de l'histoire, dans l'ordre de l'histoire. Il va la tuer même. Alors, selon les versions, on dit aussi que parfois c'est Artémis, donc la sœur d'Apollon, qui le tue. Mais surtout dans sa colère, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il maudit aussi le corbeau en disant qu'il aurait dû se taire, en fait, qu'il aurait dû agir autrement. Et donc, il va le transformer. Hein, il va lui dire « Toi, qui étais d'un blanc pur, tu porteras désormais la couleur de la mauvaise nouvelle que tu m'as apportée. » Et donc, ce serait comme ça que le corbeau serait devenu noir. Et quand je t'ai partagé cette histoire, tu m'as fait état aussi de quelque chose de similaire dans
Les
légendes amérindiennes. Alors ici, je ne vais pas faire dans le détail toute l'histoire amérindienne, mais effectivement, dans ces contrées, eh bien, le corbeau, alors là, ne devient pas noir parce qu'il a apporté une mauvaise nouvelle, mais parce qu'en fait, il va se brûler les plumes auprès d'un feu en partant précipitamment suite à une petite échauffourée avec d'autres oiseaux. Donc, c'était intéressant de voir en fait les différents peuples, comment ils expliquent finalement ce pelage qui est très, très, très noir. Et je pense que le fait que ça soit presque parfois bleu ou même assez iridescent, bah, ça donne forcément lieu à ce qu'on appelle, tu sais, les contes étiologiques, où on a envie d'expliquer ces particularités qui nous font tiquer, quoi, quelque part. Et tu m'as aussi parlé de quelque chose de très beau, qui m'a fait penser aussi à d'autres types d'oiseaux, notamment le footbassin. Je ne sais pas si les auditeurs connaissent, qui est un oiseau qui plonge très vite et assez profond dans la mer. Tu m'as parlé de l'oiseau pleureur. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Alors, c'est un conte qui vient du Tibet. C'est l'histoire de deux frères. Deux frères orphelins. Donc, le frère aîné se sent devoir prendre soin de son petit frère. Et ils vont tous les jours à la pêche. Et quand ils rentrent, le grand frère prépare la cuisine en levant les filets à donner à son petit frère. Et lui mange la tête et les arêtes. Et jour après jour, c'est identique. De sorte que dans la tête du petit frère commence à se poindre l'idée que le grand frère se réserve la meilleure part avec la tête et les arêtes. Tant et tant que ça finit par l'obséder, et qu'un jour qu'ils sont tous les deux sur la barque pour pêcher, le petit frère fait un effort pour pousser son grand frère qui tombe à l'eau. Et à cette époque-là, personne ne savait nager, donc le grand frère se noie. Le petit frère pousse la barque pour rentrer, se précipite à la maison pour préparer la cuisine et se faire enfin la tête et les arêtes, parce que c'est ce qu'il y a de meilleur. Et il découvre que, non, c'est vraiment pas bon. C'est meilleur, les filets, nettement meilleur. Et à ce moment-là, il découvre la générosité de son grand frère, son sacrifice en somme, et il le regrette. Il court vers le rivage et il plonge, il replonge pour retrouver son grand frère et essayer de le sortir de l'eau. Et à force de plonger, de replonger dans l'eau, il se transforme en un oiseau pleureur qui pleure sa chanson à la découverte, pour rechercher éternellement son frère qu'il a maltraité, alors que son grand frère prenait tellement bien soin de lui. Voilà.
Et oui, on peut imaginer que c'est une épreuve quasi initiatique aussi, cette histoire où il a fait face à une supposition, et que ça lui apprendra plus tard que justement il ne faut pas se fier à ses suppositions ou à ses préjugements. Et c'est quelque chose que justement qui nous amène un petit peu sur la suite de notre voyage, où là on va explorer tout ce qui va être de l'ordre de l'initiation. En commençant par vous présenter peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas, La Conférence des Oiseaux, qui est un texte perse magnifique, mystique quasiment. Et pourquoi ça s'appelle La Conférence des Oiseaux ? Eh bien parce que tous les oiseaux, visiblement, du monde se réunissent. Ils sont perdus, et en fait ils sont perdus parce qu'ils sont sans roi et qu'ils cherchent un roi. Et parmi eux, la huppe, qui est un oiseau déjà un peu initié, va leur révéler que le souverain, le roi des oiseaux, le Simurgh, véritable, eh bien, il règne au loin, mais alors vraiment très loin, dans un royaume caché, bien, bien au-delà de là où ils sont. Et l'idée, c'est que tous les oiseaux partent ensemble à la recherche de ce fameux roi. Par contre, la route, elle est très longue, puisqu'ils doivent traverser plusieurs vallées, 7 exactement, qui va un peu être la métaphore, finalement, de l'initiation spirituelle. Parce que justement, au fil du voyage, eh bien, il y a beaucoup d'oiseaux qui vont renoncer, parfois mourir, et seulement 30 d'entre eux vont arriver à la fin. Et là, à la fin, ils comprennent qu'il n'y a pas de roi, puisque le Simurgh, c'est eux. Le mot Simurgh, d'ailleurs, en persan, signifie 30 oiseaux, et ils sont 30. En fait, ils sont devenus ce qu'ils cherchaient, en affrontant les épreuves, en se dépouillant de leurs illusions, de leurs jugements. Ils ont réalisé que, finalement, la divinité, en tout cas, ce après quoi ils volaient, eh bien, c'était eux, c'était pas ailleurs. Il y a d'ailleurs un studio de jeux vidéo qui a adapté ce texte et qui refait vivre aux joueurs cette quête initiatique à la recherche de Simurgh et sous la forme d'un énorme oiseau un peu type phénix. Donc voilà, pour dire que ça continue aussi de vivre ces récits-là.
Mais il y a un petit conte qui est mignon tout plein où on retrouve ça, mais un peu dégradé. Les oiseaux qui se rendent compte qu'ils n'ont pas de roi alors que tous les autres animaux ont un roi. Donc, il nous faudrait un roi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Eh bien, ils se mettent finalement tous d'accord. Celui qui vole le plus haut sera le roi. Et les voilà tous partis et l'aigle va très, 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 très haut. Et il y a un tout petit, petit, petit oiseau qui est très malin et qui se met juste au-dessus des ailes de l'aigle. Et quand l'aigle crie assez haut et fort, « Je suis au plus haut », eh bien le petit oiseau il dit « Non, moi je suis plus haut que toi ». Et alors qui c'est ? Eh bien c'est le petit roitelet. On l'a appelé ainsi à cause de cette histoire. Et donc c'est le petit roi, le roitelet, qui a donc régné sur le monde des oiseaux.
Mais j'avais entendu cette histoire en Irlande justement, en anglais du coup, mais ça m'avait fait vraiment sourire. Ouais, exactement.
Oh bah c'est mignon. Hein.
Oui.
Mais moi ça n'a pas. Et donc après la conférence des oiseaux. Nous voulions aborder le voyage de Parisade, dont nous avons parlé à quelques reprises. Donc ça commence assez dramatique, puisque c'est une femme plutôt sultane qui a son mari qui part à la guerre, ou des commerces qui sont éloignés pendant longtemps. Et justement, hélas, au moment où sa femme, la sultane, va mettre au monde un enfant. Et on informe donc le sultan que ce n'est pas d'un enfant normal que sa femme a accouché, mais d'un chat, d'un chien, enfin à trois reprises. Deux fois, le sultan dit « Prenez bien soin de cet être. Et » Et la troisième fois, quand il revient, c'est trop pour lui. Et donc, il va mettre la sultane en prison et en invitant toute la population à lui cracher dessus, à lui donner des insultes. Et les trois enfants ont été donc évidemment kidnappés, mis sur le bord de l'onde. Et au bout, il y a un jardinier qui va les recueillir. Et Ils vont avoir des fois, non, ça dépend des versions, des signes distinctifs, un croissant de lune sur le front ou d'autres choses qui fait que par la suite, le sultan va pouvoir les reconnaître sans les connaître. Ces enfants grandissent, le jardinier finit par mourir et la jeune fille, la plus jeune des trois, a l'envie d'acquérir l'oiseau de vérité, le rameau qui chante et l'eau qui danse. Et ça va être un long chemin où les deux frères vont y aller, mais ils vont être transformés en pierre. Et c'est la jeune fille qui, elle, va réussir. Non seulement à ne pas être transformée en pierre, mais grâce à l'eau qui danse, leur redonner leur état d'humain et à trouver donc l'oiseau qui dit la vérité. Et ainsi, lorsque le sultan viendra chez eux, l'oiseau, à ce moment-là, et à cet instant-là seulement, dira qu'ils sont ses enfants. Et toute la vérité sera mise au grand jour, et la sultane sera réintégrée dans ses fonctions, et le sultan va s'excuser pendant des heures et des heures et des heures, parce qu'il avait été manipulé par sa propre mère. Voilà pour la parisade.
Merci. Merci pour ce récit, Anne. On avait aussi évoqué d'autres contes qui faisaient un peu état de ce chemin initiatique, de cette quête qui était jalonnée par, quelque part par un oiseau. On avait parlé des trois pommes d'orange et d'Ivan Ivanovitch. Je ne sais pas lequel tu veux.
C'est-à-dire que l'oiseau arrive dans les trois pommes d'orange. L'amour des trois oranges, qui est aussi les trois pommes d'amour ou les trois cédras. Enfin, donc c'est vers la fin de l'histoire, au moment où on pense que c'est fini, et hop, il va y avoir un rebondissement qui est assez propre au conte russe, alors que là, c'est un conte qui vient plutôt d'Espagne ou d'Italie. Alors que l'oiseau de feu, c'est au début. Au début, on a l'oiseau. Alors, qu'est-ce que tu préfères ? Que je commence par le début ou par la fin ?
Je commence par le début. Par le début. L'oiseau de feu.
L'oiseau de feu. Donc, l'oiseau de feu, on est dans une maison riche. Le tsar lui-même, le tsar de toutes les Russies, a un verger. Et dans ce verger est un arbre qu'il affectionne tout particulièrement, qui lui donne des pommes d'or. Or, depuis quelque temps, il a remarqué que des pommes disparaissaient. Il demande à son premier fils, puis son second, puis son troisième, de veiller. Les deux premiers ne seront pas en capacité de veiller comme il convient. Et une fois de plus, des pommes disparaissent et le fils est incapable de dire à son père qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Alors que le troisième ne s'endormira pas et au moment où il est sur le point de s'endormir, il est réveillé par une lueur gigantesque et c'est l'oiseau de feu qui va s'apprêter à prendre une pomme d'or, mais le jeune homme bondit, essaye de saisir la queue de l'oiseau, l'oiseau s'envole et il ne reste que une plume dans la main du jeune homme et l'oiseau ne reviendra plus les nuits suivantes. Donc ça, c'est déjà pas mal, mais le roi, voyant cette plume, est émerveillé. Parce que dans une pièce sombre, rien que la plume illumine la pièce. Donc, peu à peu, le désir l'envahit de vouloir avoir l'oiseau en entier. Il demande à ses fils d'aller à la quête de cet oiseau de feu Les deux premiers ne réussiront pas. Le troisième part sur le chemin, à la croisée des chemins. Il a des pancartes, moi j'adore les histoires, où donc ce sont des contes de tradition orale. Souvent, les conteurs ne savent pas lire ni écrire. Et là, on voit qu'à la croisée des chemins, il y a des panneaux et qui incitent le héros de l'histoire à lire, que s'il choisit cette direction-là, il perd son cheval, mais il ne perd pas sa vie. S'il prend un autre chemin, lui meurt, mais son cheval sera sauf. Et encore un troisième chemin où il aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennuis. Et le jeune homme choisit le chemin qui fait qu'il perdra son cheval. Un peu plus loin, il voit un loup. Et puis le loup disparaît. Son cheval finit dans des bruits de mâchoire de loup. Et le loup remercie le jeune homme d'avoir fait ce choix. Il lui dit, en contrepartie, je te conduirai là où tu veux. Monte sur mon dos et tagadac, tagadac. Les voilà partis jusque au tsar, propriétaire de l'oiseau de feu. Écoute bien ce que je te dis, Ivan Ivanovitch. Donc, tu rentres dans cette propriété, tu verras l'oiseau de feu, car il illumine tout. À côté est une cage en fer ordinaire, très laide, tu la prends. À côté est une cage dorée, avec des pierreries incrustées, tu n'y touches pas. Et oui, donc le jeune homme rentre, voit l'oiseau, tend la main et l'oiseau se pose sur sa main. Il s'apprête à prendre la cage ordinaire et ses yeux sont émerveillés, éblouis par la cage aux pierreries incrustées. À peine a-t-il posé ses doigts sur la cage que 10-20 gardes l'entourent et le jettent aux pieds du tsar, qui lui dit « Alors, qui es-tu ? Me réveiller en pleine nuit parce que tu me dérobes l'oiseau de feu ?» Et Ivan a du mal à dire qu'il est le fils du tsar de toutes les Russies. Comment le fils du tsar de toutes les Russies me vole de nuit mon oiseau de feu? Tu me l'aurais demandé, ça aurait été un honneur pour moi de te l'offrir. Mais là, je vais dire à tout le monde, à toutes les Russies, que le fils du tsar de toutes les Russies est un vulgaire voleur. Alors bon, Ivan est vraiment très mal en point. À moins que tu voles pour moi le cheval à la crinière d'or. Et il le laisse sortir là-dessus. Le loup lui dit, ah, tu es sorti, j'ai entendu un vacarme énorme. Et c'est ainsi que il va avoir de nombreuses péripéties et il finira par avoir et l'oiseau et le cheval et la plus belle des filles. Mais après, ça va être terrible aussi parce que les contes russes, au moment où on croit que c'est fini, hop, ça rebondit. Mais, chers auditeurs et chères auditrices, nous vous laissons sur le suspense et à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine.